Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Bien, belle journée à tout le monde en ce jeudi 18. Le dernier jeudi officiel avant la pause, parce que Noël c'est jeudi, jour de l'an c'est jeudi, le 8 on réintègre doucement. Je pense qu'avec ma patronne, ça vaut le détour, risque de revenir le jeudi 15. Alors c'est notre dernier petit rendez-vous à la recherche Lynn Gargano, réseaux sociaux Claudia Benoît. Il y a Rémi Hermoso qui, lui, est à la mise en onde. Jean-Sébastien qui est en train de placer tous nos invités de l'autre côté, puisqu'on prévoit avoir un studio plein. Je suis, moi, du côté de la régie de Canal M. Et aujourd'hui, on se sent un petit peu mal à l'aise. On se sent un petit peu voyeur. On va tenter, évidemment, d'être impoli, mais surtout, les gens ont accepté de répondre à la question « Qu'est-ce que c'est de vivre avec un sablier contre nous? » Qu'est-ce que c'est de vivre au quotidien, comment surmonter au quotidien une perte imminente de santé, que ce soit de son autonomie, de sa vie ou d'un sens en particulier. On a en fait un paquet de monde qui ont écrit des livres, d'autres qui ont d'autres projets. Et en plus, on a décidé d'inviter Jacqueline. Jacqueline Arbogast, qui est une habituée de Canal M, du moins lorsque j'avais besoin de petits conseils d'une psy, d'une coach, d'une auteure, d'une conférencière, on appelait Jacqueline à l'aide et on s'est dit, il me semble qu'aujourd'hui, le sujet risque d'être assez particulier et donc peut-être que Mme Arbogast pourra mettre un petit peu de lumière là-dessus. Tiens, juste vous donner un petit peu ses habiletés, elle est psychothérapeute, coach, conférencière, je vous le disais, formatrice et auteure du livre Le Dico pour des relations saines, outils pour développer votre intelligence relationnelle. D'ailleurs, livre qui est disponible au SQLA. Également avec nous, Rémi, est-ce que vous qui voyez de l'autre côté, les gens ont l'air souriants et prêts? Ça va être bon. Alors, tiens, on va tout de suite vous présenter Sarah. Madame Detmer, Sarah, est-ce que c'est comme ça que je prononce votre nom de famille? D-E-T-T-M-E-R-S, Detmer?
On l'appelle bien, c'est Detmers.
Detmers, bon, merci. Sarah qui, elle, est atteinte de fibrose kystique. Sarah, vous avez 27 ans, votre espérance de vie se résume à quoi? Parce qu'on n'a pas le temps de tout expliquer, donc on va la résumer à ce moment-ci.
En fait, l'espérance de vie a augmenté beaucoup récemment, en fait, par l'entremise de la recherche. On en est rendu à fin quarantaine environ. Je pense que c'est important, par contre, de mentionner que oui, le chiffre est important. Par contre, la qualité de vie pour se rendre là est d'autant plus importante pour moi, dans le sens où c'est oui, je suis contente de vivre un peu plus vieille avec la science, mais dans quel état? C'est une autre histoire.
Ouais. Emmanuel Poirier-Saint-Georges, vous êtes atteinte d'ataxie de Friedreich. Vous avez également publié un livre. Attendez un petit peu, là, j'ai ça sur la petite feuille ici. Là. Ça se passait le 25 décembre dernier. Le livre intitulé « Une histoire d'ataxie ou la dernière illusion ». Quelle est cette dernière illusion, Emmanuel?
Dans le fond, la dernière illusion pour moi, c'est un petit peu l'illusion que tout et enfin que la maladie va s'arrêter et que finalement je réussirai à vivre ma vie malgré l'atteinte de maladie.
Vous y avez cru jusqu'à quand ou y avez-vous déjà cru à cette illusion-là?
Je crois encore, dans le fond, c'est la dernière illusion que je veux pas perdre.
OK, celle-là, vous ne voulez pas la perdre.
Oui, je veux pas perdre, c'est quand même l'illusion qui me maintient, qui me permet de me dépasser encore.
Oui, c'est intéressant, ça.
Est-ce qu'on peut appeler ça une illusion ou un espoir?
Dans le fond, moi, c'est peut-être un espoir. Mm-hmm. Et en fait... En fait, dans mon livre, j'ai appelé ça une illusion parce que, en fait, dans mon livre,
Dans mon livre, je raconte un petit peu toutes les illusions qui, une par une, vont tomber. Vont tomber, donc...
Mais la question de Jacqueline est bonne. Est-ce que le choix sémantique ne revêt pas une certaine importance, justement, pour faire sienne ce désir-là, cet espoir-là, plutôt que d'appeler ça une illusion qui semble plutôt à un nuage de fumée?
En fait, oui. Mais j'ai appelé ce livre-là justement pour être dans la continuité de... Pour faire une certaine homogénéité.
Ouais. Ouais.
Dans mon livre, ça va vraiment bien. Ça.
Oui, ça va avec le thème du livre où vous perdez vos illusions au fur et
exactement.
À mesure.
Exactement.
Oui, bien sûr.
Salutations, fiston.
Bonjour.
Content de vous voir.
Content d'être arrivé.
Chance que des émissions de radio. François-Tim Fortin, 24 ans. Bon, François-Tim, il y a des choses que peut-être tu ne m'as jamais dit. Je pense que, bon, même si je vous vois, là, ce serait un petit peu ridicule de vous voir, mon fils. Il y a des choses que tu ne m'as jamais dit et je me suis posé la question, pourquoi tu as accepté de venir ici nous parler de comment tu vis ta perte visuelle qui, selon les experts, va se résumer à une cécité complète comme ton père?
J'ai accepté d'en parler à cause du cadre, en fait, à cause des autres gens autour de moi avec qui je vais pouvoir parler. Puis, c'est un peu complexe parce que je sais pas en ce moment qu'est-ce que je peux amener. J'en ouais. connais pas beaucoup de choses.
Mm-hmm.
Mais justement, j'aime mieux le faire à plusieurs que seul.
Ouais. Quels sont justement les pronostics, les annonces, les...
Il n'y en a pas vraiment. Les médecins, c'est assez frileux en général. Donc, on sait que c'est congénital, c'est le même glaucome qu'on a tous les deux. Moi, tout ce que je sais, si je me fie au passé, c'est que tu as été aveugle à 21 ans, j'en ai 24. J'ai plus de médications de mon côté, mais les médecins, de leur côté, eux, ça n'avance à rien.
Ouais, ouais. Mais tu m'as déjà dit qu'on t'avait dit que c'était une question de temps.
Oui, bien, en fait, ça aussi, ça change avec le temps. Okay. Des fois, on me dit, viens te coucher sur la table, on va te faire une chirurgie demain matin. Des fois, on me dit, OK, on va peut-être prendre plus notre temps. Donc, c'est aussi que c'est un cas assez particulier parce que c'est du glaucome mélangé à autre chose. Puis les médecins, justement, n'osent pas trop s'aventurer là-dedans parce que c'est un terrain inconnu autant pour eux que pour moi.
Est-ce que... tous les trois, et je vais toujours dire tous les trois, mais évidemment, Jacqueline, comme elle l'a déjà fait, a le droit de d'interrompre quand elle veut, pour les raisons qu'elle juge. Est-ce que, justement, il est essentiel pour vous de ne pas penser aux éventualités que les médecins vous ont annoncées? Ou, au contraire, d'y penser, ça nous motive à... profiter de la vie encore plus?
Pour ma part, Sarah? Oui, pour ma part, je pense que une des batailles de ma vie, c'est de faire la balance entre les deux. C'est donc d'y penser, mais pas trop.
Une sorte d'équilibre?
Oui, effectivement. Puis c'est peut-être une des choses qui me tiraille le plus au quotidien, parce que mon cœur me dit de ne pas y penser, puis que... Dans le fond, avec la science, tous les espoirs sont permis et on passera le pont quand on sera rendu.
Mais Sarah, est-ce que je peux vous poser une question?
Oui.
On est tous, au moment où on est, voués à mourir. On le sait.
Oui.
Quand on est, on va mourir. Vous, la différence, c'est que vous avez, ainsi qu'Emmanuel et Tim, vous avez presque une date, une échéance, que nous, on ne la connaît pas.
Absolument.
Et c'est plus difficile d'avoir cette échéance?
Pour ma part, personnellement, je ne pense pas que c'est tant l'échéance, parce que moi aussi, je le vois un peu de cette façon-là, où on va tous mourir un jour. Moi, je sais à peu près quand, puis je sais à peu près comment. Mais je me dis, on pourrait sortir de la station tantôt, se faire frapper, puis ça en serait terminé. Moi, ce qui me tracasse ou ce qui me tourmente plus, c'est pas tant de quand est-ce que ça va se finir, mais entre ici et ce moment fatidique-là,
oui.
De quelle façon... de, avec quelle qualité de vie je vais pouvoir me rendre là.
C'est ce que je me disais, parce que dans votre cas, Sarah, ce sur quoi on a focalisé, c'est sur l'espérance de vie qui généralement se termine autour de 40 ans pour une personne atteinte de fibrose kystique, généralement. Mais c'est de s'y rendre. Vous disiez déjà que vous aviez des traitements tous les matins, tous les soirs. Pour connaître une amie qui est atteinte, il y a au moins deux segments dans l'année où elle est obligée de prendre une pause, aller à l'hôpital. Et ça, c'est deux à ce moment-ci. Plus la maladie va avancer, plus les soins vont être importants. Donc, ça vous préoccupe plus que, disons, la faim?
Absolument.
Ouais.
Oui, parce que la fin, ce sera terminé, on passe à autre chose. Moi, je le vois comme ça. Mais pour l'instant, je suis un être humain qui a des buts, qui a des envies, qui a des désirs. Et de savoir que la maladie peut freiner ces buts-là, aussi grand le désir soit-il, je pense que ça, c'est beaucoup plus difficile à accepter que de nécessairement la finalité en soi.
On me dit que vous êtes agente de voyage?
Oui, absolument.
Vous vendez du rêve.
Oui, exactement. Je vends du rêve, puis j'essaie de leur dire que le rêve est possible.
J'aurais bien aimé savoir, pour François Thiem et pour Emmanuel, vous, c'est quoi vos buts, vos envies et vos désirs?
En fait, moi, mon but, c'est juste d'en profiter au maximum, là, maintenant. Et plus tard, ça sera plus tard.
Ouais. Emmanuel, vous êtes étudiante au premier cycle, département des littératures françaises à l'Université de Montréal. Plus tard, ce sera plus tard. Est-ce que vous vous dites, je veux tenter de prendre les bouchées doubles parce que j'ai encore peut-être plus de capacité qu'éventuellement, et que vous vous dites justement, tu sais, il faut que je le fasse maintenant, ce diplôme-là, ces projets-là. Est-ce que vous vous sentez pressé?
Probablement que oui. J'ai une espèce d'urgence d'aller vivre. Et c'est ça qu'en ce moment, c'est ça, je vais à l'université, je vais finir ma session. J'ai lancé mon livre en septembre. Donc, il faut que je m'occupe de mon livre.
Ouais.
Et en juillet 2015, nous et une couple d'autres ataxiques, on a le défi Machu Picchu d'organiser.
Okay.
Où on s'est lancé le défi de monter le Machu Picchu entouré d'une gang, même si on est ataxique, tu dis. Donc, on récolte des fonds en même temps. Donc, en ce moment, j'ai trois gros projets en même temps. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, je pense que oui, j'essaie d'en faire le plus possible.
Je me tourne vers Jacqueline. Jacqueline, oui? L'urgence, est-ce que c'est un moteur ou un frein parce que, justement, ça met de la pression?
C'est une très, très bonne question. J'allais dire que je pense que ça va dépendre de chaque personne et du diagnostic et de la manière dont elle va vivre ce choc. J'imagine que chacun d'entre vous, vous avez eu tous les trois à un moment donné un choc en attendant le diagnostic, et ce que vous en avez fait après a fait la différence. Et dans ce que j'entends, je n'ai pas encore entendu François Thiem, mais j'ai l'impression qu'il y a une résilience chez vous deux, en tout cas, et que vous vous êtes donné des projets, vous êtes donné des buts, des défis, vous en parlez, et que là, du coup, l'urgence devient comme un moteur, un soutien. Oui, j'ai envie de réaliser ça, mais comme n'importe qui d'autre qui aurait un but, un objectif, et qui voudrait arriver à son objectif. Mais vous, c'est, je dirais, plus intense, comme à la puissance 2. Et je pense que ça vous aide quelque part d'avoir cette urgence. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, Sarah, des fois, ça doit être... Mais j'aurais jamais le temps de faire tout. Ça va pas assez vite, ou j'aurais pas assez les moyens. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit peu des deux. Est-ce que je me trompe?
Non, vous vous trompez pas du tout. Je pense que c'est ça. C'est la bataille d'une vie entre ce désir-là, puis en fait d'être conscient qu'un jour, c'est plate, mais tout va se terminer. Oui. Mais c'est pas juste pour moi. C'est tout va se terminer pour tout le monde.
Oui.
Et des fois, je brasse un peu mes amis en leur disant « Oui, mais bon, toi, t'es en santé, mais comme je disais tantôt, on peut se faire frapper dans la rue, puis ce sera terminé. » Donc, si pourquoi d'essayer de brasser mes amis puis dire pourquoi tout le monde ne pourrait pas vivre avec cette urgence de vivre-là, parce que des fois, c'est porteur d'espoir, puis ça nous permet de faire de grandes choses, puis de porter des projets à bout de bras, exactement comme Emmanuel.
Ah, mais oui.
François Thym, question un petit peu peut-être délicate, mais ton père est capable d'en prendre. Est-ce que le fait que tu saches que tu vas probablement, fort probablement perdre la vue, que j'ai perdu la vue, que je fonctionne, mais qu'en même temps, on sait très bien que il y a des jours, voire des semaines, où j'adore vraiment pas ma vie. Est-ce que c'est aidant ou au contraire, tu appréhendes parce que tu as vu les deux côtés et tu vois encore les deux côtés?
Ben c'est justement, c'est les deux côtés. C'est le couteau à double tranchant. C'est de voir les personnes justement qui ont ma condition, qui vont même des personnes aveugles autour de moi fonctionner vraiment bien. Ça, c'est motivant. Puis il y a toi, mais il y a d'autres gens aussi, de voir tous ces aveugles-là qui justement continuent leur vie, puis qui ont la même urgence de vivre que j'ai l'impression tout le monde ont, peut-être à des rythmes différents, mais tout le monde essaie de le vivre. De l'autre côté, ben c'est sûr que dans ton cas, toi, je connais tes bébites, puis je les comprends aussi. Puis ça, c'est pas quelque chose qui me stresse personnellement, parce qu'on a chacun ses bébites, ouais, on a chacun ses difficultés, on a chacun un niveau d'acceptation différent. Puis je sais pas tant que ça m'arrivera pas, puis ça sera pas pareil tous les jours non plus. Je vais vivre les deux, mais c'est... Il y a un bon côté d'avoir des modèles autour de soi, puis de savoir que ça va arriver, mais ça sera pas la fin.
Mm-hmm. C'est peut-être ce qui te différencie des filles. Sarah, Emmanuel, en théorie, physiquement... vous allez vers un amoindrissement, alors que François Thym va être obligé de vivre complètement différemment, va être obligé de faire le deuil de certaines choses, mais va quand même pouvoir trouver des moyens pour continuer. C'est peut-être là la différence, c'est que le sablier pour vous est peut-être plus important que pour lui au niveau de la fin, si on veut, ou de la grande limite.
Plutôt de la qualité de fin.
Oui, merci.
Oui, je pense, hein, c'est plus à ce niveau-là.
François Thym, on parlait d'urgence tantôt. Tu as décidé il y a 2 ans d'aller en Europe avec le sac à dos. Tu as une vision limitée, particulièrement limitée lorsque tu ne connais pas l'environnement. Tu as même décidé de faire ça 1 mois seul. Est-ce que la perte de vision éventuelle a joué dans cette audace-là ou pas du tout?
Je suis certain que oui. Autant où la perte de vision joue tout le temps dans le « oh, je devrais peut-être pas essayer, c'est trop dangereux pour moi », autant où là, justement, je me dis « un jour, je les aurais plus ces yeux-là, c'est le temps d'y aller ». Mais ça aussi, je dirais, c'est un peu un autre couteau à double tranchant, parce qu'en ce moment, je suis un peu dans un mode où on parlait de « je veux tout faire ». C'est un peu la même chose pour moi. Je me dis, pendant que je peux maintenant, que j'ai tous mes morceaux, je veux tout faire. J'adore les voyages. Je me dis, je veux voyager partout. J'ai envie de faire les études le plus rapidement possible pendant que c'est facile. Donc, c'est une belle façon d'en profiter. D'un autre côté, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression d'épuiser toutes mes chances pour après. J'ai l'impression de me dire, je fais tout maintenant, puis que le jour où je deviens aveugle, là, on dirait que je n'avais pas pensé à après.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui me restera après comme projet, comme rêve, comme désir? C'est ça?
C'est exactement ça.
Ah oui, oui.
Est-ce que tu profites du temps pour apprendre des trucs pour fonctionner sans voir éventuellement, parce que c'est plus facile d'apprendre en voyant, ou tu te dis, on traversera le pont quand on arrivera à la rivière?
La réponse B.
OK.
C'est une grosse phase de déni
aussi. Ah oui, je pensais que, sachant à l'avance que vous alliez vers cette échéance, vous prépareriez pour que ça soit plus facile et vous préférez attendre. Qu'est-ce qui vous fait choisir cette solution?
C'est un refus de l'acceptation. C'est que je me dis, j'ai pas l'impression que c'est réel tant que c'est pas arrivé.
Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour vous deux?
En fait, j'allais envoyer une question à François Thym qui était, est-ce qu'on peut vraiment se préparer à quelque chose qui nous est complètement inconnu?
Et ça aussi. On peut pas se préparer à perdre un bras si on en a toujours eu deux.
Ouais. Et voilà.
Oui et non. Là, on parle de préparation peut-être à un autre niveau. Parce que j'imagine, enfin, dans ma tête, je me trompe peut-être, d'apprendre le braille, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que
ou
vous apprendrez?
Ou apprendre à cuisiner, oui, ou apprendre à... Dans oui. le sens, plus tu développes oui. des mouvements, plus ils deviennent machinales, des automatismes. Et c'est beaucoup plus facile, le mimétisme, de l'apprendre quand on voit, parce que l'autre va le dire, non, tu le fais comme ça, puis bon, des choses comme ça. Emmanuel, bon, on revient à cette dernière illusion. Est-ce que, bon, François Thiem a utilisé le mot déni. Est-ce qu'il y a du déni ou c'est complètement un outil que cette dernière illusion qui fait partie du titre de votre bouquin?
C'est complètement un outil.
OK, il n'y a pas de déni chez vous.
Non, j'ai complètement accepté ma condition. Je veux dire, je suis en solant depuis 18 ans.
Ça répond à ma prochaine question.
Depuis mes 18 ans. Et j'ai maintenant 30 ans. Et dans ces 12 années-là, je n'ai jamais arrêté d'aller à l'université.
Non, en effet. Est-ce que je peux vous poser une question à tous les trois? Quand vous avez appris votre diagnostic, mais vraiment le jour où on vous l'a donné, ça a été quoi vos réactions?
Vous étiez quoi, une petite bout de femme dans ce temps-là, j'imagine?
Allez-y, Emmanuel, vous étiez...
Ouais. Quel âge aviez-vous, Emmanuel?
En fait, moi, j'avais 15 ans quand j'ai eu mon diagnostic.
Oui. Et comment vous l'avez reçu?
Quand je l'ai reçu...
Comment?
J'ai vraiment pas compris.
Ouais. Pas compris.
Non.
C'est ouais, le médecin ou les parents
vraiment,
qui vous l'ont
donné? Vraiment, le médecin m'a annoncé ma maladie.
Mm-hmm.
Et vraiment, je la regardais. Et non, je reparlais pas. Mm-hmm. Et surtout quelqu'un me disait que je serai en chaise roulante bientôt.
Ah oui.
Et tout ça. Et dans le fond, c'est comme ils disent, tu peux pas vraiment te préparer. Ouais.
D'ailleurs, je lisais, Emmanuel, que normalement, le fauteuil vient 8 à 10 ans après la tombée du diagnostic. À peine 3 ans, avez-vous tiré le mauvais billet?
Non, je crois pas. Et c'est sûr que, je crois que j'aurais pu toffer 8 ou 10 ans.
Mm-hmm.
Mais mes médecins me tenaient un petit peu pour que j'aie une chaise roulante. Et comme j'entrais au cégep, puis que les couloirs étaient plus longs.
Ouais.
Ma démarche devenait difficile.
C'était plus sage de cette
Donc,
façon-là.
Donc, si ça me disait, c'est plus sécuritaire pour toi. Donc,
et peut-être plus facile aussi.
Oui, je suis désolée.
Avec Jacqueline Arbogast, Sarah Detmers, Emmanuel Poirier Saint-Georges, François Thiem Fortin, on discute justement de l'imminence d'une perte. On fait un petit arrêt. Trois gars sur le sofa, on revient tout de suite après.
Le sapin encore allumé, les enfants vont dormir. Dans les manteaux parfumés, faut croire qu'ils ont hâte de partir. Père Noël était pas à son meilleur. Des verres de lait, y en avait bu plusieurs. Oublie la barbe et les bottes noires, laisse la tuque rouge dans le placard. Le costume de Noël, c'est comme un char. Quelqu'un d'avance, ça peut être une fille en cas d'urgence. Seras-tu le héros des enfants ou feras-tu pleurer grand-maman à Noël? Ceux qui n'auront pas ce qu'ils désirent. Message à toutes les tantes et tous les oncles. Y'a pas toujours juste l'intention qui compte. Oublie les bougies qui sentent fort. Laisse le tricot dans le présentoir. Le cadeau de Noël, c'est pas en polar. Faut y penser.
bec puis un sourire contre la facture avant de partir de Noël. C'est juste pour un soir. Rentre, laisse ton air bête dehors. L'esprit de Noël, faut un peu y croire. Prépare-toi, mais pas trop d'avance. Pour tes lumières, y'a pas d'urgence. Puis attends pas jusqu'au mois de mai pour défaire ton sapin baumier de Noël.
C'est une des nouvelles tristes de 2014 que la... Ben, c'est pas la rupture, parce que les gars s'entendent encore très bien, mais disons qu'on a décidé d'arrêter d'alimenter le catalogue de Trois gars sur le sofa. On écoutait le manuel de Noël, pièce que vous pouvez trouver encore sur leur site, que vous achetez à la pièce. Il y en a deux, trois là, qui ont comme ça composé pour le temps des fêtes, une par année. Vous dire ce qui s'en vient pour Accès libre cette fin de semaine, entre autres, comment Kéroul fait-il ses évaluations pour nous dire que oui ou non, c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite. On va également recevoir la présidente du conseil d'administration, puisque Mme Ducharme co-anime Accès libre avec moi en décembre. On va s'intéresser à un projet où l'on veut photographier les stations de métro de Montréal, les 68 stations de métro, et où l'on demande à un paquet de monde qui vivent un paquet de réalités. Comment trouvez-vous l'accessibilité du métro de Montréal? Donc, portrait Montréal et la ville de Gatineau, qui est un des récipiendaires des prix à part entière, une ville que l'on dit particulièrement accessible, du moins lorsqu'on la compare aux autres, l'Office des personnes handicapées qui voulait lui donner un petit coup de chapeau. Donc, on va voir ce qui se passe là-bas, qui ne se passe peut-être pas un peu partout. Ça, c'est le menu d'Accès libre. Nous, ben, on a encore 30 minutes devant nous. Ben, ça vaut le détour où on s'intéresse à l'imminence d'une perte importante dans notre vie. Comment la vit-on au quotidien? On y revient après notre petite pause habituelle de la mi-parcours.
Ça vaut le détour.
Aujourd'hui, on s'intéresse à la perte imminente d'un atout important dans notre vie, que ce soit un membre, que ce soit la mobilité, la santé ou même la vie, justement. Et on a voulu avoir l'aide de Jacqueline Arbogast, qui est coach, psychothérapeute, conférencière et formatrice. Elle est auteure du livre « Le Dico pour des relations saines, outils pour développer votre intelligence relationnelle », livre disponible au Service québécois du livre adapté. Également avec nous, tiens, une autre qui a publié, Emmanuel Poirier-Saint-Georges. Emmanuel qui a publié, il n'y a pas si longtemps, hein, septembre, une histoire d'ataxie ou la dernière illusion. Sarah Detmers, ça c'est sur l'autre feuille. Sarah, dites-moi votre prénom, votre nom de famille. Là, Detmers.
Detmers, exactement.
Oui, c'est vrai, c'est Mers qu'il faut dire, hein, comme Amers, ouais. Sauf qu'il n'y a pas de T. Detmers, qui est agente de voyage. Pour quelle bannière, tiens?
Pour Vacances Le Faubourg, Boisbriand, mais on fait partie de la famille Carlson Wagon.
OK. Les bons, disons pour les prochains mois, là.
Oui.
Les bons rabais, les bons deals, où il n'y a pas d'Ebola, où il n'y a pas de dengue, où il n'y a pas de...
Mais ça dépend. Ça n'existe pas, une mauvaise destination. Comme un mauvais hôtel n'existe pas, il y a des mauvais matchs entre les destinations et les clients.
Il y a des mauvais hôtels, là, Sarah.
Oh, oui, il y a des mauvais hôtels.
Ben, là, vous faites votre agence de voyage, là, qui
Je suis une vendeuse, par définition.
Effectivement.
Non, mais je dirais en général... T'sais, dans le sens où, pour certains, un 3 étoiles à Cuba, ce sera pas bien.
Ouais.
Puis pour d'autres qui veulent faire la fête puis avoir quelque chose à bas prix, ça peut être extraordinaire.
Ouais.
Le même hôtel. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est sûr qu'il y en a qui sont toujours...
François-Tim, toi qui es couch surfer, est-ce qu'il y a des mauvais divans?
Il y en a sûrement. Ben, les punaises de lit, c'est pas le fun.
Non, ça, c'est un fait. Mais les plus beaux divans, les plus belles rencontres dans les pays que t'as fait, si on reste dans le voyage?
Les plus belles rencontres, c'est... Les plus belles rencontres, c'est drôle à dire, mais c'est les gens qui viennent pas du pays où est-ce que t'es. Mm-hmm. J'ai rencontré un Péruvien en Suisse. Ça a été vraiment chouette. J'ai rencontré une Brésilienne à Amsterdam. Puis c'est des gens qui en ont mon long à raconter quand t'es prêt à changer de pays puis à tout changer ta vie d'un bout à l'autre.
C'est un fait. François-Tim Fortin, c'est le seul qu'on n'a pas présenté. Et il y a, c'est pas un hasard pourquoi le nom de famille rime avec celui de l'animateur. J'avais envie de regarder, justement, on a parlé de projet, on a parlé d'éminence, on a parlé de déni, on a parlé d'échéance que, en général, on ne veut pas voir parce que ça met trop de pression, mais quand même qu'on doit considérer. À quel point, justement, ces projets-là sont organisés? À quel point les autres autour de vous, peut-être, évitent la discussion ou vous poussent à avancer parce que eux vous confrontent à profiter au maximum de votre vie? Est-ce qu'on ose vous dire ça? Hey, profite-en pendant que tu peux ou c'est tabou? Sarah?
Ben, moi, c'est très drôle parce que j'ai été élevée avec deux parents qui ont les deux une vision de ma maladie qui est très, très différente.
Le diagnostic est tombé à?
15 mois.
15 mois,
ouais. Okay. Donc, c'est génétique. J'ai toujours eu la fibrose kystique, mais on le suit à 15 mois. Ouais. Donc, moi, j'ai jamais eu, comme Emmanuel, la confrontation d'un diagnostic. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours été élevée en étant une personne atteinte de fibrose kystique, point. La santé, j'ai jamais goûté à ça. Mais mon père dit toujours, c'est pas parce que t'as la fibrose kystique que t'as pas le droit de rêver. Rêve au plus grand rêve, puis fonce. Puis on traversera le pont, mais qu'on soit rendu.
Ouais.
Contrairement à ma mère qui dit, on sait pas quand est-ce que ça peut finir, comme n'importe qui. Donc là, je veux que tu t'organises pour être heureuse dans l'immédiat. Puis dans 5 ans, ce sera dans 5 ans, puis dans 10 ans, ce sera dans 10 ans, puis c'est tout. Donc j'ai eu la sagesse d'esprit, peut-être, un de mes talents, d'avoir pris un peu les deux bons côtés de ma mère puis de mon père, en disant c'est correct, je me donne le droit de rêver à long terme, mais pas au détriment d'aujourd'hui.
Vous, les REER, là, c'est niaiseux à dire, mais c'est pas important. Vous dites, je veux non seulement dépenser mes énergies, mais je mets pas d'argent de côté. Tout ça se fait au maximum, je présume.
C'est un petit peu drôle qu'on parle de ça parce que je suis dans un débat intérieur avec moi-même maintenant. En ce moment, je parlais de ça pas plus tard que la semaine passée, de dire, et si on trouvait un remède? Mm-hmm. Et si ça va mieux que je pensais? Je vais me retrouver quoi à 60 ans avec rien devant moi? Ça ne m'intéresse pas. Mais en même temps, effectivement, si tout s'arrêtait demain, je veux en avoir profité. Donc, ça revient un peu à mon débat intérieur dont je parlais tantôt, qui était de dire, d'essayer de faire une balance entre le ici, maintenant, mais qu'en même temps, comme n'importe quelle femme de mon âge, je veux rêver... d'avoir une longue vie avec une qualité de vie qui n'est pas pire.
Jacqueline, quelle est la différence entre être nuancée, équilibrée et être sur la clôture? Juste comme entre les deux, tu ne sais pas trop quel choisir, tu es en déséquilibre, mais en même temps, peut-être que des fois, comme si on se dit « Sarah met de l'argent de côté, on ne veut pas qu'elle se prive de quelque chose parce que tout à coup que dans 20 ans, il y a une... » Comprenez ce que je veux dire.
Oui. En fait, je pense que tout être humain est un peu sur une clôture. Il est toujours en recherche d'équilibre. Il y arrive plus ou moins bien. Et certaines personnes, dans cette recherche d'équilibre, ont plus de nuances, ont plus d'équilibre que d'autres. Donc, c'est une qualité de ce passage sur la clôture, je pense, la nuance, je pense, la réflexion, je pense, le détachement. Tout ça, ce sont des atouts pour une personne qui se met à réfléchir sur... Oui, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis qu'on ait un handicap ou non, qu'on ait une maladie ou non, je pense qu'à un moment ou à un autre, on est amené à se poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et comment je vais la nuancer et comment je vais l'accomplir et comment je vais la rêver?
François-Tim, comment expliques-tu le déni évoqué? Parce qu'on parle toujours de l'avenir, comment se préparer ou on ne veut pas se préparer, on veut mordre dans la vie plutôt que de penser à demain. Mais comment expliquer ce déni alors que tu mentionnais connaître plusieurs personnes aveugles? Bon, tu as vécu avec une vision partielle. Donc, on se dit, il est équipé pour savoir qu'il y a avantage et ben, que c'est l'éventualité est devant lui.
Je préfère m'adapter après plutôt que de prévoir le coup. Je préfère justement qu'une fois que je serai aveugle, à ce moment-là, d'apprendre à cuisiner. À ce moment-là...
Même si tu cuisines déjà, il faut le dire. Là.
Oui, le Kraft Dinner, c'est...
Oui, mais tu manges quand même mieux que ton père.
Oui.
Ouais. Et tu as une palette plus large également. Mais ça est-ce que...
Pardon, excusez-moi, oui. Luc. Est-ce que ça pourrait être comme pour vous pour un autre objectif, du coup? Vous le transformez en un objectif pour après?
Tout à fait. Puis j'ai justement l'impression que ça va remplir l'espèce de vide que ça peut créer à ce moment-là. Oui. Qu'à ce moment-là, ça va me donner l'énergie du « OK, la vie est différente. Mm-hmm. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut apprendre ça. » Plutôt que de me dire « OK, j'ai tous les outils. » De m'asseoir, de me dire « Bon, ben je peux fonctionner. Qu'est-ce que je fais?
Mm-hmm. »
Je suis plus souvent en mode réaction.
D'accord.
C'est beaucoup ça que je me rends compte. Puis, la plupart, en fait, j'ai remarqué que les gens qui me connaissent me traitent comme si j'en avais pas de problème.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Je pourrais dire à pas mal tout le monde que je vais être conducteur de train, puis ils me diraient c'est une bonne idée. C'est les gens qui me connaissent pas qui me disent oh, c'est incroyable, mais profites-en, puis profites-en maintenant, puis c'est vraiment. Tandis que les gens qui me connaissent, souvent, ils pensent même pas.
Jacqueline, est-ce que c'est utile? Bon, on parle à trois personnes, mais il y a plein de gens qui nous écoutent à la maison, puis qui, eux, on peut transposer dans nos vies. Est-ce que c'est utile d'être en réaction? Est-ce qu'il y a lieu de se préparer si on sait que, je sais pas moi, on va perdre un emploi dans un an parce que l'usine a annoncé que... Puis quel est l'avantage et le désavantage d'être en réaction versus en préparation? Évidemment, il y en a des deux côtés.
En fait, j'allais dire que ça dépend des personnalités, d'une part, et puis aussi de l'échéance et de la cause. Parce que je pense que pour François Thiem, il y avait vous qui étiez là. Donc, il y avait quand même une connaissance quelque part. Donc, il n'a pas besoin quelque part d'anticiper, de se préparer autant qu'un autre. Et puis, il a tellement bien rempli sa vie, comme il le dit, ça lui laissera quelque chose à remplir pour après. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas ça. Alors, il y a la différence entre, comme Emmanuel, où on a le diagnostic du jour au lendemain, puis... Il faut faire avec et il n'y a pas vraiment de préparation. Et puis, il y a le diagnostic comme avec Sarah ou François Thiem où c'est progressif. Donc là aussi, c'est différent. Et je pense que dans tous les cas de figure, c'était la question que je posais un peu tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où vous avez été, effectivement, on a parlé de déni, mais dans le choc, et un moment de colère ou un moment de révolte et que... Une fois ce passage fait, accompli, parce que c'est normal d'être passé par là à un moment donné ou à un autre, dire pourquoi moi, c'est injuste, et pourquoi de cette façon, et pourquoi ce handicap, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je remplis ma vie. Et là, il y a la préparation qui se met en route, il y a les projets, il y a les rêves, les défis dont parle Emmanuel. Moi, je pense qu'il y a tout ça en même temps.
Ouais. Sarah, j'ai envie de... Bon, vous êtes agente de voyage, on pense peut-être à derrière, tout ça. Je ne sais pas où vous en êtes côté amour, mais que ce soit vous ou des gens dans votre cercle de connaissances qui vivent soit avec la fibrose kystique ou avec peut-être la sclérose latérale, ou bon, là, c'est encore plus rapide comme échéancier. Est-ce que on se tient loin de l'émotion parce qu'on se dit... Je ne veux pas faire de mal à quelqu'un sachant que je vais, disons, perdre des plumes au gré des années qui viennent, ou au contraire, on se dit « je veux maximiser et profiter encore de ma vie ». Puis là, on ne parle pas de voyage, mais d'émotions, de grandes émotions.
Je dirais beaucoup que ça dépend de la personne à laquelle on fait face. Je donne un exemple. Les membres de ma famille... Bien, c'est les membres de ma famille. Je peux pas décider de ne pas aimer mes parents. Je peux décider de ne pas aimer mes grands-parents ou, bon, ma famille immédiate. Et donc, que ça me porte à avoir un espèce d'esprit de surprotection avec ces gens-là parce que je les aime, ils m'aiment, c'est clair. Mm-hmm. Et donc, on essaie souvent de les protéger.
Mais la possibilité d'être en couple?
Je vous dirais que, ben, c'est sûr, pour avoir plusieurs amis qui ont la fibrose kystique, qui ont mon âge, autant femmes que hommes, je dirais que c'est pas tant à nous que ça fait peur, plus qu'à l'autre mm-hmm. qui est en face de nous. Mm-hmm. Moi, comme ça fait 27 ans ou 26, en fait, que je cohabite avec la fibrose kystique, j'ai bien des bébites que j'ai réglées depuis déjà un bon bout et que je suis prête à vivre avec ça. Puis bon, ça fait partie de mon quotidien. Par contre, quand on rencontre, dans mon cas, quand je rencontre un chum potentiel, lui, il embarque à pieds joints dans quelque chose de complètement nouveau.
Vous lui dites quand?
Dans mon cas, ça va prendre à peu près 15 minutes.
OK.
Dans mon cas, à moi, mais
les deux autres sont obligés, mais vous, quelqu'un pourrait dire, bon, on pourrait peut-être attendre la deuxième, troisième rencontre.
Je pourrais.
Ouais.
Par contre, moi, je le vois comme un package deal. Mm-hmm. Ce que tu as devant toi, c'est ça. Ça a eu l'avantage par le passé, autant avec mes chums que mes amis, de faire une espèce de sélection naturelle où j'ai eu beaucoup d'amis qui ont eu des chums pour une semaine, deux semaines, trois semaines. Puis après ça, hop, on passe à un autre parce que c'est l'adolescence, puis c'est correct. Moi, j'ai jamais eu ça parce que quelqu'un qui me disait oui, autant en amitié qu'en amour, c'est parce qu'il savait dans quoi il s'embarquait, puis il était prêt pour un bon bout.
Le 15 minutes, donc aussi rapidement, vous le faites pour la personne ou vous le faites pour vous protéger, parce qu'on n'est pas encore très installé dans la relation? Donc, c'est peut-être plus facile de se retirer?
Définitivement pour moi.
Ouais.
Mais pour moi, pas tant dans une vision à long terme, mais plutôt parce que, bon, comme la fibrose kystique, c'est une maladie pulmonaire, des grosses quintes de toux où on a l'impression que j'ai quatre pneumonies en même temps, ça arrive... Sans avertir, j'ai trop vécu le malaise de la personne en face de moi qui me regarde comme de dire, ben, mon Dieu, t'es en train de mourir là, quand pourtant c'est juste une quinte de tout.
Là, vous y répondez non, pas encore.
C'est ça, exactement. Donc, ce regard-là, je l'aime pas. C'est comme si, juste pour me sentir mieux, advenant le cas qu'il arrive quelque chose, j'ai pas à expliquer la situation et expliquer le pourquoi. J'explique juste la situation, le pourquoi, tu le sais déjà.
Emmanuel, tiens, on parlait de... Sarah évoquait le mot regard. Vous disiez avant l'émission, je suis content que ce ne soit pas de la télé, parce que j'aime pas toujours le regard des gens. Parlez-moi de ça.
Mais en fait, c'est ça que j'aime pas. J'aime pas la TV, mais j'ai eu une entrevue à la télé la semaine passée. Justement, donc, mais c'est correct parce que l'entrevue télé était juste avec l'animatrice. Elle n'était pas devant public. Donc, mais c'est ça, en fait, j'ai vraiment de la misère avec le regard du public. Ouais.
Quel est ce regard-là pour quelqu'un qui ne voit pas les regards? Mais aidez-moi à comprendre.
C'est parce qu'en fait, moi, ma maladie paraît vraiment beaucoup. Et dans le fond, je sens que les gens, quand ils me regardent, ils me prennent un petit peu pour une attardée mentale ou quelque chose du genre. Donc, moi, un petit peu, je fais tout mon possible pour essayer de... C'est de paraître au mieux de que ma condition me permet. Et c'est à ce moment-là que je me mets absolument beaucoup de pression et je perds tous mes mots.
Ouais. Mais pour avoir, moi aussi, tenté de combattre les regards, je peux comprendre la pression. Puis c'est drôle parce que je disais l'autre soir à quelqu'un que maintenant, je suis à l'aise sur les trottoirs de claquer des doigts pour voir s'il y a un camion qui est stationné sur le trottoir avec les colocations. Puis c'est comme toutes ces années-là, j'avais comme pas réalisé que les gens, de toute façon, me regardaient parce que j'avais une canne qui faisait tic-toc, parce que j'en accrochais un ou un autre. Fait que tu te dis, bon, mais tant qu'à se faire regarder, aussi bien se faciliter la vie. Mais ça, c'est à 46 ans que j'ai compris ça, 46, 47. Mmh. François Tim, t'en as 24. T'es rendu où là-dedans? Dans le regard des autres?
Ça dépend vraiment des moments. Ça dépend vraiment des moments, ça dépend vraiment des contextes. Devant les inconnus, c'est pas grave. c'est pas quelque chose qui me pèse. Le moment où j'ai de la misère avec le regard des gens, c'est quand je me rends compte que je peux jamais être anonyme. Que je vais toujours être celui qui est différent des autres, puis qu'on va regarder, en fait, que je peux pas juste...
Mais Paul McCartney est dans le même trouble.
Oh, mais lui, il est riche.
Ouais, yes.
Mais que justement, si je marche dans la rue puis que j'ai de la misère à trouver quelque chose, que c'est moi que tout le monde va regarder, c'est autant où ça me dérange pas que les gens me regardent, que le regard des gens me pèse pas, autant où des fois j'ai le goût de juste ouais. passer. Ouais. J'ai envie qu'on me remarque pas, j'ai envie d'être assis comme n'importe qui d'autre.
Sans vouloir minimiser ce que vous trois vivez, Jacqueline, il y a plein de gens à la maison qui, s'ils se scrutent, que ce soit pour un surplus de poids, que ce soit... On n'aime pas, on voudrait être anonyme. Comment apprendre à accepter le regard des gens qui, de toute façon, comme nous, on doit regarder aussi?
Je pense que c'est de s'accepter soi-même qui nous aide. C'est ce que vous avez traduit à votre manière tout à l'heure en disant, à un moment donné, je me suis dit, de toute manière, les gens me regardent. Alors autant que je me donne des facilités, et vous avez donc accepté quelque chose de vous-même. Et je pense qu'en s'acceptant soi-même, ça nous aide à supporter le regard des gens, parce que de toute manière, eux, je ne connais pas une personne qui n'ait pas un handicap quelque part. Évidemment, il y en a des plus importants que d'autres, mais on a tous des faiblesses, on a tous des limites en tant qu'être humain. Et il y en a qui sont parfaitement, l'image parfaite, le corps parfait et tout, et qui ne s'aiment pas. Et ouais, je les trouve plus handicapés que toutes les personnes autour de moi dans le studio.
Oui, oui, oui. Parce qu'on parlait de pression et Dieu sait qu'on peut s'en imposer beaucoup.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Tout
et à la fait. Pression souvent paralyse.
Exact. Ouais. Et puis ça crée de l'angoisse. Et puis vous avez des gens qui... auraient tout pour être heureux, vous connaissez cette expression, et qui sont très dépressifs ou suicidaires, alors qu'ils auraient tout pour être heureux. Alors, je me dis, bon, c'est vraiment le regard qu'on a sur soi-même et sur la vie. Il y a beaucoup de résilience autour de moi aujourd'hui, et ça, je trouve que c'est génial.
Rapidement, je ne sais pas si vous y avez pensé, le temps file. Je sais, Sarah, qu'une connaissance mutuelle m'a dit que vous aviez des projets. Les trois, je vais vous demander où vous vous voyez dans 5 ans. Ou ça peut être autant les projets que peut-être la santé, que peut-être le moral, l'humeur, l'acceptation de soi. Je commence avec Sarah.
C'est loin, 5 ans. Je sais pas ce que je vais manger pour souper. 5 ans. C'est sûr que, je m'en cache pas, ma passion, c'est les voyages. Sachant que je pourrais peut-être pas voyager toute ma vie, j'ai évidemment plein de projets de voyage. Je me suis dit que un pied sur chaque continent au moins d'ici 5 ans. C'est sûr qu'il y a une histoire de greffe pulmonaire qui me pend au bout du nez aussi. Dans combien d'années, dans combien de temps exactement?
Ça, c'est souhaité, ça?
Bien sûr que c'est souhaité. On m'offre une deuxième chance sur un plateau d'argent.
Ça n'a pas l'air reposant à subir, mais je comprends.
Non, c'est pas reposant, mais apparemment que naître, ce n'est pas reposant non plus.
C'est ce qu'on dit. C'est une très, donc, très bonne réponse.
Naître et renaître, c'est la même chose.
Oui, OK, on garde ça. Ça c'est, c'est peut-être la clip de l'émission. Emmanuel Poirier-Saint-Georges, où vous voyez-vous dans 5 ans, autant dans l'acceptation de soi, l'acceptation du regard, les projets personnels?
En fait, c'est une sans question parce que, en fait, moi, j'ai complètement accepté ma maladie. Je l'ai même écrit dans mon livre, ça parle beaucoup. J'ai appris à m'aimer comme que je suis, même si je suis différente. Et je pense vraiment au jour le jour. Donc, dans cinq ans, je veux même pas me projeter. Mais c'est ça que je veux continuer à écrire. J'écris depuis que je suis tout jeune et je veux continuer à écrire. Ouais. Et comme les critiques sont super bonnes, je vois pas pourquoi je continuerai pas dans cette lignée-là. Et c'est pour la maladie, quand c'est tout bas, là, ça arrive.
Ouais. On s'attend?
À chaque fois que je pense à l'avenir, je me vois avec les mêmes yeux qu'aujourd'hui. Que tu me dises dans 5, dans 10, dans 20 ans, à chaque fois que je pense à ce que je connais et je m'imagine avec la même vision. Puis du côté aspiration personnelle, Je vais parler une langue de plus. Je sais pas laquelle, mais je vais apprendre une langue. J'ai 5 ans, ça va le faire. Puis j'aimerais vraiment trouver... Là, j'ai plein d'idées ces temps-ci.
Là, on travaille sur l'allemand, l'arabe.
Oui.
Il y a un fond d'espagnol.
Il y a un fond de swahili.
Ah, OK. Ah, bon, oui. Mais l'espagnol est plus solide que le swahili.
Oui, oui.
Ouais, OK.
Plus utile aussi. Plus réutilisable.
Ouais. Mais c'est juste qu'il va falloir se brancher un moment donné puis investir. Là. Parce que là, on a 4 fonds.
Oui, mais exactement. Tu m'as donné 5 ans.
C'est vrai.
Pour en avoir une. Fait ça.
OK.
Mais j'aimerais vraiment. J'ai beaucoup d'idées ces temps-ci de projets. Ça revient toujours à la base pour défendre n'importe qui, pour que les gens soient bien dans leur peau. Hier, dans le métro, je pensais à peut-être faire une petite business de produits écologiques avec des personnes handicapées qui n'ont pas d'emploi. Où est-ce qu'on pourrait produire soit des savons faits à la main, des produits nettoyants. Écologiques, qui sont en vente dans les magasins naturels, mais qui sont quand même produits à grande échelle. Je me disais, comment on peut faire encore mieux? Puis en plus, aller chercher le côté social, puis faire mettre la main à la pâte à des gens que le marché du travail n'arrive pas à intégrer en ce moment.
Ouais. Merci beaucoup tous les trois. Merci beaucoup, Jacqueline.
Merci, Luc.
Jacqueline, vous voyez-vous dans 5 ans, vous?
Je suis en train de développer un projet où je serai conférencière, formatrice et à travers des capsules vidéo, des webinaires, parce que j'ai envie de transmettre un peu tout mon savoir de manière plus large et que ça soit plus accessible. Donc, à travers le web, c'est facile maintenant. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de concrétiser.
Vous aimez les nouvelles technologies?
C'est pas que je les aime, je les apprivoise.
Ouais.
Je vois, mes enfants sont beaucoup plus à l'aise que moi. Là, je suis obligée d'apprendre, mais bon, ça fait partie de plein de choses qu'on apprend dans la vie.
Jacqueline Arbogast, Sarah Detmers, Emmanuel Poirier-Saint-Georges, François-Tim Fortin. Merci beaucoup, beaucoup. Joyeuses fêtes à vous quatre. Et ben, j'espère que vous serez où vous voulez être dans 5 ans, ou même peut-être... que la vie va vous surprendre. Merci également à Rémi, qui était à ma gauche, Lynn à la recherche, Claudia aux réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon moment d'ici à ce qu'on se retrouve dans le cadre d'Accès libre. Jean-Pierre Ferland pour nous laisser.
Avant de m'assagir, avant de jeter l'encre, de ménager mon cœur, de couver ma santé. Avant de raconter mes souvenirs à l'encre, de vouloir sans pouvoir et de compter mes lauriers. Avant cette saison, avant cette retraite, je veux sauter les ponts, les murs et les hauts bords. Je veux briser les rangs, les cadres et les fenêtres. Je veux mourir ma vie et non vivre ma mort. Je veux vivre en mon temps, saboter les coutumes, piller les conventions, sabrer des règlements, avant ce coup de vieux, avant ce mauvais rhume qui tuera mes envies et mes 32 dents. Et si je le pouvais, je ferais mieux encore. Je me dédoublerais pour vivre comme il faut, le jour pour ce qu'il est, la vie pour ce qu'elle vaut. Ça c'est mourir sa vie et non vivre sa mort. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien comprendre. Je veux recommencer, je veux voir, je veux prendre. Il sera toujours temps et jamais assez tard d'accrocher ses patins, d'éteindre son regard. Je ne veux pas survivre, je ne veux pas subir. Je veux prendre mon temps, me trouver, m'affranchir. Me tromper de bateau, de pays ou de corps. Mais bien mourir ma vie et non vivre ma mort. Mais au premier détour, à la première peine, je me mets à gémir, à pleurer sur mon sort, à penser à plus tard, à calculer mes scènes, et à vivre ma vie, et à vivre ma mort. Je cherche votre cou, je vous prends par la taille. On se fait si petit, petit, quand on a peur. Je ne suis plus géant, je ne suis plus canaille. Je couvre ma santé, et je ménage mon cœur. Et puis je me reprends, et puis je me répète qu'avant cette saison, avant cette retraite, il faut sauter les ponts, les murs et les hauts bords. Il faut mourir sa vie et non vivre sa mort. Et pendant ce temps-là, le printemps se dégive. Le jour fait six journées, la nuit s'éveillait. c'est à recommencer que l'on apprend à vivre, que ce soit vrai ou pas, moi, j'y crois.
Ah, avant de m'assagir, vous dire ce qui s'en vient sur Canal M durant la pause des fêtes, puisque c'est notre dernier Ça vaut le détour, entre autres Christiane sera là le 31, pour des bons rites trad. Un jour, je vous suggère d'adopter le trad durant le temps des fêtes, puis de le garder toute l'année. Hier encore, j'écoutais le vent du Nord à la maison, j'avais vraiment du plaisir. Il y a des contes de Noël qui reviennent sur Canal M dès le 24, et on me dit également que Jacques Lemaître, évidemment, va avoir... j'ai juste le playlist dans la tête, mais disons un menu musical approprié pour l'occasion. À bientôt tout le monde!